Voilà, donc on va passer au dialogue avec la salle. Vous faites signe, j'essaierai de vous voir malgré l'éblouissement des lampes, mais tu veux peut-être faire un commentaire avant ?
Non, effectivement, il faut qu'on puisse dialoguer avec la salle. Moi ce qui me frappe, les exposés là, qu'on vient d'entendre, c'était extrêmement intéressant, et je trouve qu'il y a une interrogation de plus en plus forte du monde de la finance, non pas sur sa propre utilité en général, mais sur l'utilité d'un certain nombre d'activités. Et il y a quelques semaines, le Financial Times a publié une série d'articles sur l'avenir du capitalisme et qu'est-ce qui allait bien pouvoir en advenir, ce qui est quand même un peu étrange de la part de ce journal. Et finalement, la conclusion de ces articles, c'était, évidemment, on a le capitalisme, sinon, eh bien, c'est le communisme qu'a évoqué d'ailleurs Laurent, et donc on va maintenir. Mais ce qui est, je trouve, préoccupant, c'est cette financiarisation de tout qui a été évoquée par les deux orateurs, par Dominique notamment, et puis cette interconnexion des marchés dont Laurent a parlé, qui pose un vrai risque public. C'est-à-dire que quand une banque fait faillite, ce n'est pas la même chose que quand une entreprise chimique fait faillite. Vous avez cette espèce de méfiance qui se généralise et qui fait que c'est la puissance publique qui paye, in fine, qui paye la note. Et ça me frappe énormément. Donc c'est un indice dont je pense qu'il y a vraiment un intérêt public à agir. Mais que face à ces interrogations du monde de la finance, qui sont des interrogations assez globales, assez mondiales, il n'y a pas de gouvernance publique mondialisée pour répondre à cela et pour proposer des solutions.
Je pensais que tu parlerais au conseil de BNP Paribas, il y a des gens très compétents en matière de risque. Je pensais que tu dirais oui, mais ils n'ont pas de troupes.
Mais apparemment, il y a des milliers de personnes qui travaillent. Mais je voudrais rester sur ce point parce que BNP Paribas est une banque que je respecte beaucoup. Et d'ailleurs, elle m'a employé il y a un certain nombre d'années. Et il se trouve que c'est une banque qui n'a jamais été associée à des problèmes majeurs, des scandales, des dysfonctionnements considérables. Moi, j'ai en tête une autre banque qui est UBS, qui avait expliqué après la crise de 2008 que ça y était, que tous les risques étaient parfaitement contrôlés, que tout allait bien. En septembre dernier, il y a un trader qui s'est fait prendre, qui a fait un trou de 2 milliards, je ne sais plus combien, ça a augmenté quelques jours, on a pris que c'était 2,5, bon, peu importe. Donc, manifestement, il y avait à nouveau des problèmes dans la gestion des risques. Et dans la bataille qui a précédé le départ du président d'UBS, donc qui a dû démissionner à la suite de ça, il y a l'un de ses défenseurs, qui était l'un des dirigeants de la banque, qui, dans une interview, qui en parlant à un journaliste, en l'occurrence toujours du Financial Times, avait eu cette parole étonnante: ce qui nous est arrivé, c'est le 11 septembre, c'est un attentat terroriste. Alors, lire cela, quand même, il y a quelques mois, après tout ce qui s'est passé dans les banques, toutes les déficiences internes...
C'est ce qu'avait dit M. Bouton également.
À l'habilité de BNP Paribas, la Société Générale.
Peux juste faire un commentaire sur ce point, c'est très intéressant. Il faut bien comprendre un truc sur les places financières internationales. Je vais vous raconter... UBS, je ne vais pas en dire beaucoup, parce que vous allez comprendre ce que j'en pense lorsque je vous aurais dit pourquoi les banquiers italiens n'ont pas connu la crise. Mais ils le disent eux-mêmes, c'est parce qu'ils ne parlent pas anglais. Voilà, les banquiers italiens ne parlent pas anglais, donc ils ne se sont pas mis sur les produits toxiques.
Jean-Michel Yolin.
Oui, moi je voudrais
rebondir. Jean-Michel Yolin, CGIET.
Je voudrais rebondir sur les remarques de Laurent. Et on était très étonné que François n'ait pas du tout parlé. C'est les responsabilités des États qui sont quand même, à mon avis, à la base de tout. Quand on prend l'exemple des subprimes, certains pensent, et j'en fais partie, que c'était une vraie volonté à la fois du président de la République, du président des États-Unis et de Greenspan, d'ouvrir complètement les vannes pour que chaque Américain, pour des raisons électorales évidentes, chaque Américain ait son logement, et avec l'idée que ça allait dynamiser l'économie, quand le bâtiment va, tout va, tout le monde le sait, et qu'à certaines dynamisations, l'État en récupérerait plus que sa mise, il va se refaire, avec des raisonnements vraiment de gougnafier, de casino, il va se refaire, et que ça créera une dynamique extraordinaire. Mais il faut quand même voir que par ce canal-là, ce brave M. Greenspan, il a créé 30 000 milliards de faux dollars, c'est-à-dire 1 000 Madoff et 10 000 Kerviel, si on prend des unités de compte connues. Bon. Donc, si je prends l'exemple de notre beau pays, mais de tous les pays du Club Med, c'est-à-dire tout ce qui est au-dessus de la Wallonie, quoi, en gros, qu'on a fait ? On a, comme on l'a fait depuis longtemps, mais maintenant on ne peut plus s'en sortir à cause de l'euro, qu'est-ce qu'on a fait ? On a vécu à crédit, c'est-à-dire que les Français ont un pouvoir d'achat bien supérieur à leur capacité de créer des richesses. La différence entre les deux, c'est l'endettement. Donc cet endettement fait qu'en même temps, nous sommes beaucoup trop chers, le coût du travail est complètement explosé, donc nos entreprises sont plus compétitives et on a détruit notre tissu industriel, et à mon avis, c'est pas demain qu'on va arriver à le reconstruire. Par rapport aux Allemands, on a depuis 60 ans, tous les 10 ans, dévalué de 30%. Il y a eu 10 années magnifiques, c'était quand les Allemands ont dû absorber la RDA. Et pendant ces 10 années-là, c'était fantastique, on était aussi bons qu'eux. Je me suis dit, c'est bon, maintenant, on aligne les parités. Puis on a continué à dériver, 15% de dérapage des coûts salariaux en l'espace de 10 ans, et aujourd'hui, on est complètement hors-jeu. C'est-à-dire qu'à la fois avec les rigidités du travail et le coût du travail, on est complètement hors-jeu. Donc les responsabilités des États sont quand même des éléments absolument majeurs. Et hier, je crois, dans Le Monde, il y a eu une interview d'une banque allemande, la plus vieille banque allemande qui date de 1650, qui dit « Maintenant, la France est passée derrière l'Espagne, derrière l'Italie, derrière l'Angleterre, derrière l'Irlande, juste un peu avant la Grèce. » Ils sont dans l'état de déni en refusant de voir la situation dans laquelle ils sont. Et ils sont, dans les discours de campagne électorale, complètement en dehors des réalités.
Deux, trois commentaires. C'est pas tout à fait un... Il y a quelque chose que je comprends pas bien, mais je soumets à la sagacité de l'assistance. C'est que les pays dont les banques sont les plus désastreuses sont les pays où l'industrie est la plus remarquable, c'est-à-dire l'Allemagne et le Japon. Chacun sait que les banques allemandes, qui sont d'ailleurs, enfin, pour l'essentiel des banques mutuelles, des caisses d'épargne, etc., en fait, elles font un business extrêmement pépère, et que les autres, vous avez Dresdner qui a disparu, Commerce qui a absorbé Dresdner et qui va très très mal, et Deutsche Bank qui était hyper riche et qui a gaspillé un argent absolument phénoménal. Et le Japon, même chose, les banques japonaises sont d'une performance au strict plan bancaire assez contestable. Ça, c'est pour un commentaire sur ce que vient de dire Jean-Michel Yolin. Je ferai un commentaire sur le début de son intervention. C'est très intéressant de voir aux États-Unis la conjonction, depuis le début des années 2000, de trois phénomènes qui se sont additionnés. Le premier phénomène, c'est une idéologie libérale laissée-faire qui accentuait considérablement la tendance amorcée au début des années 80 avec Ronald Reagan. Donc ça, c'est tout à fait une toile de fond extrêmement, extrêmement forte. Ensuite, il y a un deuxième phénomène, c'est un déficit budgétaire qui a commencé à nouveau exploser au début des années 2000, alors qu'en fait, dans les années Clinton, il avait été plutôt très bien contrôlé. Et ce déficit budgétaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, il conduisait à un endettement extérieur et donc forcément à une bulle. Et enfin, troisième élément, c'est précisément pour favoriser à la fois la place de New York et le financement du déficit américain, il fallait créer ce que à l'époque on appelait, et qu'on appelle d'ailleurs toujours, des marchés très larges, très profonds, etc., ce qu'ils sont aujourd'hui, et qui permettaient l'interconnexion des marchés, le développement des marchés à New York, et le fait que New York était une place financière mondiale. Et on a les trois phénomènes simultanés, et ces trois phénomènes sont, à mes yeux en tout cas, parmi les causes majeures de la crise des subprimes.
Je pense qu'un des problèmes du programme que imaginerait Yolin, qu'on pourrait résumer en travailler plus pour gagner moins, est politiquement pas très facile à placer dans les élections présidentielles actuelles. Patrick Pellata.
Moi, comme tout le monde, j'imagine, j'apprécie beaucoup votre débat, je tiens à le dire, c'est situé à un très haut niveau et c'est très intéressant. Comme tout le monde, j'ai beaucoup lu sur la crise, j'ai lu un petit bouquin sur la crise des subprimes, qui est l'histoire des 5 ou 6 gars qui avaient parié contre le succès des subprimes. C'est très intéressant parce que ça décrit pratiquement une arnaque. Et ma question, elle est toute simple, mais elle me tarabuste. Et j'en ai une deuxième après qui est très liée à ça, qui est toute simple aussi. La question, c'est comment se fait-il que des gens qui prêtaient à des femmes de ménage pour acheter leur deuxième maison à Long Island, et les gens qui surveillaient ça, les agences dans lesquelles, les agences de notation qui avaient mis leurs plus jeunes experts à noter, c'est-à-dire qui faisaient une fortune, non pas avec la cotisation annuelle qu'elles ont des entreprises, mais avec la création d'un compte nouveau, et comme c'est, ça crée énormément de comptes. Enfin, comment se fait-il que des choses aussi évidentes que ça passent au travers de toutes les règles de gouvernance que dans les 5000 chiens fureteurs, de vieux chiens fureteurs de trous, personne n'ait vu ça. Ça, pour moi, ça reste une question. On a du mal à croire que ce n'est pas une conspiration. Pourtant, ça ne ressemble pas tel que c'est raconté dans le bouquin de conspiration. Donc, non. Pourquoi ? Comment c'est possible ? Comment des systèmes de protection, de surveillance arrivent à passer à côté de choses aussi élémentaires ? C'est ma première question. Ça, c'est sur le passé. La deuxième, c'est le marché du cuivre. Fonctionnait il y a seulement une dizaine d'années avec un niveau de capitaux donné. Il fonctionne aujourd'hui avec à peu près 30 fois plus de capitaux. Et le marché du cuivre, entre-temps, il a suivi la croissance mondiale. Donc, il a peut-être pris, j'en sais rien, 15%. Et ma question est toute simple, c'est qu'est-ce que ça change quand on multiplie par 30 les capitaux qui sont impliqués sur un marché donné ? Qu'est-ce que ça change en bien ? Il paraît que ça change en bien et éventuellement en mal. Et comment on peut contrôler ça et le réguler ? Est-ce que vous avez une idée sur cette question ?
Sur la première question, je trouve que le livre explique très très bien, mais tu peux peut-être...
Ouais, je voudrais réagir à la première question. Je ne connais rien au marché du cuivre, donc je laisserai d'autres personnes y répondre. Vous abordez un point crucial. La réponse que je livre, c'est que le gain financier justifie tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des gains réalisés, où vous avez un marché en hausse, soit les gens ne se posent aucune question... soit les quelques-uns qui s'en posent n'arrivent pas à se faire entendre. Vous avez évoqué les prêts consentis à des ménages modestes américains pour acheter des maisons qu'ils ne pouvaient manifestement pas rembourser. Comment se fait-il que des entreprises sérieuses, mondialement réputées, aient investi à ce point dans des start-up qui auraient dû être réservées à des investisseurs spécialisés à la fin des années 90, qui n'avaient quasiment rien à proposer, dont les managers étaient d'autant plus appréciés qu'ils étaient inexpérimentés? Bon, cela est tout à fait incroyable. Madoff, bon... Vous avez évoqué Madoff, enfin on a tous évoqué Madoff. Madoff est un cas d'école. Les documents promotionnels de Madoff, qui donc exposaient la stratégie d'investissement de Madoff, suffisaient à établir la fraude. Et le raisonnement par lequel cette fraude pouvait être établie a été envoyé à la SEC par un Américain, dont j'ai oublié le nom, je parle de lui dans le livre. Il y avait une quinzaine ou une vingtaine de choses qui n'allaient pas du tout et qui prouvaient qu'avec cette stratégie, on ne pouvait pas avoir la performance dont il arguait. Mais simplement cette performance, il y avait un historique de performance depuis 10 ans, donc il fallait continuer, peu importait, on gagnait de l'argent. À partir du moment où vous gagnez de l'argent, vous ne vous posez pas de questions. La plupart des gens, on n'arrive pas, les questions sont inaudibles.
Oui, juste un petit commentaire sur Madoff. Le document est arrivé à la SEC. Et la SEC a mandaté une équipe pour aller inspecter Madoff. La personne qui était chargée de l'équipe était le mari de la nièce de Madoff. Si vous voulez. C'est quand même très réussi comme absence de conflit d'intérêt. Un premier point. Le deuxième point, c'est, vous savez, en finance, on prend toujours des décisions sur la rentabilité et le risque. Mais la rentabilité, c'est aujourd'hui et le risque, c'est demain. Donc, de toute façon, c'est le pot de terre contre le pot de fer. À partir du moment où ça marche, on dit « ouais, bon, ça devrait encore continuer à marcher ». Et le raisonnement est absolument déséquilibré entre le risque et la rentabilité. On met en avant la rentabilité et puis le risque, on verra demain ce qui va se passer. Donc, c'est un combat inégal. Et c'est pour ça qu'on se dit « bon, bah, ça va bien continuer ». Et si ça va bien continuer, pourquoi ne pas participer à l'augmentation de la taille de la pizza ? Tant que la musique danse, tant que la musique joue, il faut continuer à danser. C'était aussi le patron de Citigroup.
Si je peux revenir sur le marché du cuivre et votre remarque sur la multiplication par 30 de la taille du marché. Je suppose que vous parlez du marché à terme. Ce marché au comptant, c'est-à-dire le marché physique, lui, il n'a pas de raison d'être multiplié par 30, comme vous l'avez remarqué. Donc pour moi, c'est, je ne connais pas le détail, mais c'est un exemple qui va dans le sens de ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. C'est-à-dire il y a une émission de monnaie, il y a une politique budgétaire qui a trouvé ses limites, et il y a une émission de monnaie qui cherche à suppléer à ça. Et cette émission de monnaie fait qu'il y a une disproportion croissante entre le volume de la monnaie en circulation et la taille de l'économie réelle. Et donc il faut bien que ces moyens de paiement se mettent quelque part. Et ils se mettent dans les marchés. Ils se mettent dans les marchés financiers, ils se mettent dans les marchés immobiliers, et ainsi de suite. Pour moi, je pense, je n'en ai pas évidemment la preuve, mais je pense que la réponse à votre interrogation, elle est à chercher de ce côté-là.
Je comprends tout à fait l'explication. Vous l'avez dit tout à l'heure, je savais aussi. La question, c'est quel effet ça a très, très concrètement, je veux dire, comme on aurait dû regarder le prêt à la femme de ménage pour la deuxième maison à Long Island, quel effet ça a concrètement, et du coup, quelle régulation on peut tout de suite imaginer sur quelque chose qui est en train de ponctionner l'ensemble de l'industrie mondiale, hein. Et j'ai pris le cuivre, c'est un exemple parmi de nombreux autres. Mais je suis d'accord avec votre explication globale, la question c'est quel effet concret ça fait et comment on peut arrêter ça, quoi. Comment on peut trouver une régulation ?
Eh bien,
c'était l'objet du débat.
À vrai dire, il y a plusieurs types de régulations possibles, mais il y a plusieurs types d'interrogations dans votre question. Le premier, c'est une régulation prudentielle, c'est-à-dire sur le niveau des fonds propres bancaires. Je ne suis pas sûr qu'il faille appliquer le coefficient F de l'École nationale des ponts et chaussées, mais on a quand même appliqué un sérieux coefficient par rapport à la situation d'avant 2007. Bon, ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est une interrogation sur la pertinence des produits financiers. Certains de ces produits, est-ce que réellement, ils rendent un vrai service à l'économie ? J'avoue qu'il y a des thèses qui disent oui, d'autres qui disent non. Et pour le moment, la question, à mes yeux en tout cas, n'est pas véritablement tranchée. Et je suis d'accord avec votre inquiétude, parce que c'est tout à mes yeux, en tout cas, y a un certain nombre de choses qui vont beaucoup trop loin. Et un certain nombre de produits sur la pertinence desquels on peut réellement s'interroger.
Oui, bonsoir. Je suis Yazid Kichou, je suis universitaire économiste. Et j'avais à la fois une observation et une question. L'observation, c'est par rapport aux différentes crises qui ont été mises en évidence, je pense qu'il y en a une qui a été un petit peu oubliée, c'est la crise économique, hein, c'est-à-dire la crise de répartition qui, derrière, permet quand même de générer de la demande et qui permet ensuite de relancer la croissance. Donc ça, c'est quand même un point, me semble-t-il, important. La deuxième observation, et là je m'adresse vraiment aux banquiers, comment se fait-il que finalement, il n'y ait pas eu de leçons qui aient été tirées de ce qu'on a connu à la fin des années 70, c'est-à-dire la crise du tiers-monde, hein, et notamment les dettes des pays du tiers-monde, avec ce que l'on sait des plans d'ajustement structurel qui ont été opérés par la suite. Donc il y avait quand même une première spéculation, hein, qu'on connaît dans l'histoire du capitalisme, qui a été la dette du tiers-monde. Et ça m'amène à une deuxième question, par rapport à la monnaie, hein, dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est que j'ai quand même l'impression qu'il y a depuis un certain nombre d'années un détournement de la monnaie de crédit. Hein, puisque la monnaie de crédit, ce que l'on en sait, hein, globalement, c'est que c'est la monnaie du capitalisme. Hein. Le capitalisme fonctionne sur la base d'un système d'avance et que ce sont les avances qui permettent à la machine de se lancer et de perpétuer un petit peu le mouvement de croissance. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même, depuis maintenant une vingtaine d'années, et un économiste américain qui s'appelle Robert Shiller, qui a produit un ouvrage assez remarquable sur l'exubérance irrationnelle. D'ailleurs, on pensait qu'il allait être nobélisé, c'est Krugman, pour différentes raisons qu'il a été, montre très bien ce point-là, et notamment, justement, le détournement de la monnaie de crédit. Et moi, le troisième mot que je voulais rajouter à la confiance, etc., c'est l'étrange régularité dans les comportements, finalement, des acteurs. Hein, puisque ce qui s'est passé dans les années 29, avec la première déconnexion, à ce que Shiller appelle la première déconnexion entre le cours de l'action et les profits distribués, on la retrouve de manière un petit peu nuancée avec le premier et le deuxième choc pétrolier, on la retrouve avec la bulle Internet, on la retrouve avec la crise des subprimes et on la retrouve avec la crise que l'on connaît aujourd'hui. Voilà, merci.
Bon, sur ce par quoi vous avez terminé, c'est-à-dire l'étrange régularité dans les comportements, c'est précisément l'objet du livre de François d'expliquer en quoi, pourquoi il y a cette régularité, puisque c'est le mimétisme même qui conduit à l'emballement des marchés financiers. Bon, ça, je crois que, je ne sais pas si c'est une réponse complète à votre question, mais c'est sans doute dans cette direction-là qu'il faut chercher. Ensuite, vous avez posé une question sur ce que vous avez appelé le détournement de la monnaie de crédit. Je suis entièrement d'accord avec ça. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous avez une monnaie, une quantité de monnaie qui croît plus vite que les crédits à l'économie, c'est forcément qu'elle sert à autre chose qu'à faire crédit à l'économie. Bon, et enfin, troisième remarque, c'est sur la crise du tiers-monde. En fait, c'est essentiellement la crise des années 70. Enfin, début des années 80, essentiellement, c'est la crise de l'Amérique latine. Et, en fait, il s'est trouvé qu'on a fait une sorte de commerce, les banques ou le système financier mondial ont fait une sorte de commerce triangulaire. Il y avait l'argent du pétrole qui arrivait dans les banques, qui était prêté aux pays d'Amérique latine essentiellement, mais à d'autres également, bien sûr. Et qui était censé être investir, produire des rentrées, des résultats, et puis rembourser les crédits bancaires. Ça, c'est ce qu'on appelait le recyclage des capitaux pétroliers. Et ça a conduit à des endettements massifs du Mexique, du Brésil, de l'Argentine et des autres pays d'Amérique latine, ainsi que d'autres pays, quelques autres pays, Philippines, etc., dans le monde. Et tout ça, ça n'a pas marché, tout simplement parce que l'investissement, l'argent n'a pas été investi convenablement. Il y avait probablement trop d'argent, ou trop d'argent pour les opportunités qui étaient présentes, et les pays se sont endettés trop massivement par rapport aux possibilités d'investissement qu'ils avaient réellement. Et donc, à la fin, le système a explosé avec la défaillance du Mexique qui entraînait la chute de tous les pays d'Amérique latine. Et on a mis, je ne sais plus, une dizaine d'années pour en sortir.